Eh bien, on revient au taxi,
Oui, Pierre. Taxi. J'en ai pris un d'ailleurs pour m'en venir, Paul.
Un taxi ou un Uber?
C'était un Uber, je dois l'avouer. Ouais. J'ai commencé ça, j'ai perdu mon Théo, moi. Taxi Diamond, Paul, est vendu. Bon. Et là, il y a une balance de vente. Et les gens, ils me disent pourquoi il n'a pas vendu tout l'argent dès le départ. Là. Parce que là, on dit que les propriétaires originaux de Taxi Diamond réclame de l'argent à Expend Capital qui n'a pas payé.
Expend Capital, il faut le dire. Là, c'est
le fonds de capital de risque qui détenait Taxelco, ouais, et donc voilà. Théo Taxi. Et il dit, dans le fond, ils n'ont pas payé le prix qu'ils nous avaient dit, qu'ils nous paieraient les intérêts puis le capital par la suite. Alors, il y a ça. Quand tu vends une entreprise à un fonds ou à n'importe qui et qu'il y a un montant à recevoir en fonction de la réussite de l'entreprise ou simplement en fonction du temps, tu deviens un créancier, c'est-à-dire que tu prends un risque. Alors, pourquoi dès le départ, on n'a pas exigé l'argent dès le départ? Mais c'est parce que des fois, il y a deux raisons. La première, c'est que c'est une entreprise de service. Et les entreprises de service, bien, la vente n'est pas garante de succès par la suite. Donc, des fois, il y a des clauses du genre, si on atteint tel chiffre d'affaires, on va vous payer tel montant. Si on n'atteint pas tel volume de vente, on va diminuer le prix. Et il y a aussi une question d'être capable de vendre. Donc, on dit, parfait, on va vous payer tel montant. Ici, on parlait de 3 millions. Mais vous allez nous financer. Mais le risque du vendeur, c'est de perdre de l'argent. C'est de ne pas se faire payer. Et là, ici, on nous dit, on poursuit Expend Capital. C'est bien de valeur, mais Expend Capital, c'est un fonds de capital de risque. Et le seul risque que tu prends quand tu investis dans un fonds de capital de risque, c'est ton investissement. Donc, si on évalue les placements par une firme externe dont on a parlé l'autre fois et qu'il ne reste plus d'argent dans le fonds de capital de risque, bien, la responsabilité des partenaires, mm-hmm, se limitent à l'argent qu'ils ont mis dedans. Donc, s'il ne reste pas d'argent pour rembourser, ouais, la compagnie, bien, il ne reste pas d'argent et c'est terminé. Mais c'est triste parce que les gens qui ont vendu Taxi Diamond pensaient sûrement se faire payer.
Exact.
Et là, c'est triste parce qu'effectivement, si le fonds de capital des risques n'a plus de fonds, bien, il n'y aura juste pas de paiement et il n'y a personne qui est personnellement responsable de verser de l'argent parce que c'est un fonds d'investissement. Donc, quand tu vends à une entreprise qui a une responsabilité limitée, bien, tu prends un risque.
Les problèmes de mail paiement et le commerce de détail.
Oui, et on va aller dans le sens plus large. On parle de mail paiement ce matin dans la presse et dans les journaux et TVA hier en disant que, bon, l'entreprise qui vend des sacs à main, du parfum, a de la misère à payer la BDC. Bon, quand on regarde le modèle d'affaires, c'est extrêmement concurrentiel, le détail des sacs à main entre 125, 150 et 350 $. Il y a une panoplie de concurrents et le client, quand il paye pour un sac à main, il y a deux choses qu'il achète. Le côté pratique et pas cher, ou le prestige. T'sais. Et quand tu sors des sacs à main à 50-100 $, tu as un certain prestige, à 300-400 ou 200 $. Et là, tu as la concurrence devant toi. Tu as les sacs à main Céline Dion, tu as les sacs à main May, tu as les sacs à main de toutes les compagnies et tu as les marques mondiales. Alors toi, avec ton flagship, là, ton magasin, avec des coûts fixes importants, avec des employés à payer, comment tu peux rentabiliser ça? Tu sais, je te donne un exemple. On dit que l'entreprise visait 4 millions de chiffre d'affaires cette année, mmh, et qu'on avait 800 points de vente. Bien, ça fait 5 000 $ de vente par point de vente en moyenne. C'est sûr qu'il y en a des plus gros, des plus petits, mais en moyenne, c'est 5 000 $. Donc, c'est quoi? C'est 100$ par semaine maximum de vente. Donc, c'est beaucoup de distribution, beaucoup de risques, beaucoup d'échanges pour peu de profit potentiel et beaucoup de risques. Et contrairement à d'autres marques comme Jennifer Lopez, qui est une grosse marque internationale de son image de marque, Beyoncé, qui sont des vedettes qui peuvent vendre techniquement des produits dérivés parce qu'elles ont une valeur marchande importante, My Payment n'a pas cette renommée internationale-là. On la connaît beaucoup au Québec, mais est-ce que c'est une assez grande star pour que son prestige nous amène à acheter le produit?
C'est un peu la même chose avec Caroline Néron, non?
Virginie Coussa aussi. Ouais. Mais ça dépend de la structure de coût de chacun, ouais, ou chacune. Puis on parlait de Ricardo, mais Ricardo, lui, a réussi à transformer un chroniqueur bouffe, si tu veux, qui a cuisiné en machine à imprimer de l'argent, mais tranquillement, pas vite.
Mais Ricardo, qui est venu ici, ouais, à notre émission, et qui lui disait à quel point, oui, une machine à imprimer de l'argent. Mais le retour après tous les investissements, là, quand il a fait toutes ses recettes et tout ça, le retour comme tel, là, c'est pas...
Écoute, est-ce que je changerais ma fortune contre celle de Ricardo demain matin? Mais je comprends ce que tu dis,
oui,
qu'il n'y a pas,
aussi,
pas beaucoup de marge.
Mais ce que je veux dire, c'est que c'est au prix d'investissement et de risque
massif,
ouais, pour un retour beaucoup moins spectaculaire qu'on
peut
penser.
Ricardo, quand il s'est lancé dans les casseroles,
ouais,
Il n'est pas allé avec « je vais mettre mon nom avec une compagnie qui va prendre tous les risques financiers ». Il a dit « non, moi, je vais aller voir mon fournisseur en Chine. »
Et il a inventé des outils.
Il a mis beaucoup d'argent à risque. Le vignoble, même chose. Donc, c'est un gars qui est allé, comme on dit, « all-in », mais il avait les ressources puis les reins solides. Ricardo a bâti ça sur on parle de maintenant de décennies. T'sais, on est loin de l'époque où il a commencé. Là. Mais ce qui est spectaculaire, c'est que le commerce de détail, Paul, ça fait mal. Et on a parlé aujourd'hui sur Internet, les gens m'écrivaient, me disaient, tu sais, le monde à cette heure, il débarque dans ton commerce. Mm. Là, il regarde ton produit, ils prennent une photo, puis ils vont sur Google, puis ils disent, est-ce que je peux avoir le produit équivalent pour moins cher? Puis ils te le mettent dans la figure, puis regarde, sur Internet, je l'ai à 12$. Ben vas-y, regarde, moi, je suis là devant toi, j'ai un commerce, j'ai des frais fixes de centres commerciaux, je paye des taxes sur mon chiffre d'affaires, il faut que je paye le centre commercial. L'employé que là, il faut que je paye des avantages sociaux, des congés, à pas rentrer, à malade. Donc, c'est impossible de concurrencer. Donc, aujourd'hui, si vous avez l'intention d'être une vedette, tu veux te lancer dans un produit. Moi, ce matin, je disais, faites comme Véronique Cloutier. Si t'es une assez grosse vedette pour t'associer à un produit, associe-toi au produit, mais laisse le risque à quelqu'un d'autre avec le réseau de distribution. Tu sais, l'aubainerie, mets Véronique Cloutier sur ses posters. Mais Véronique n'a pas des échantillons dans son sous-sol, elle n'est pas en train de faire des emballages.
Elle n'est pas obligée de gérer des inventaires.
C'est une association, tu sais. Donc, s'associer et être la face du produit, c'est bien.
Oui.
Mais de prendre le risque de vendre des lunettes. Tu sais, Paul, mettons, je commence à vendre des lunettes, moi, là, puis je dis à Jean Coutu, je vais les vendre 40$ les lunettes. Parfait, mais moi, je vais te les vendre à Jean Coutu 15-20$. Ça va me coûter 5-6$ de les fabriquer. Puis là, sur ma marge de 7-8-9-10$, je vais avoir des frais de vente, de retour, de transport, des employés. Finalement, je ne ferai pas une scène, puis je vais me brûler pendant 3 ans. Donc, c'est un peu de la folie, quasiment un peu naïve de se lancer dans le commerce comme ça maintenant. Aujourd'hui.
C'est le cruel monde du commerce du détail depuis l'arrivée des géants de la vente en ligne.
Tu sais, ce qui va rester beaucoup, c'est les commerces de proximité qui ont dont la proximité est importante. Exemple, le coiffeur.
Ouais.
Lui, il va survivre. Parce que il n'y aura pas Amazon qui va me garrocher une coiffeuse par Internet puis me l'envoyer chez nous pour couper mes cheveux. Donc ça va rester comme valeur.
Ouais.
Parce qu'humainement, il y a un contact nécessaire. C'est comme le barista au coin de la rue.
Ouais.
Il me sert mon café, oui, mais il ne me vend pas juste un café. Il me vend un bonjour. Il me vend une poignée de main. Il me demande comment ça va ta jambe. Tu comprends-tu? C'est ça qu'on achète.
Comment ça va ta jambe?
C'est un exemple.
Et comment elle va la jambe?
Elle va bien, Paul.
Oh.
Mais tu vois, à côté de la clinique, qu'est-ce qu'il y avait?
Qu'est-ce qu'il y avait?
Une vente
de
bottes pour les blancs, tu comprends? Donc,
de bottes orthopédiques.
Exactement. Donc tu vois, le marché est là. Il y a un besoin de marcher à côté.
Est-ce que tu crois que le Canadien va gagner ce soir, Pierre-Yves?
Paul, je m'ennuie de Mats Naslund, le dernier marqueur de 100 points du Canadien. Alors oui, je crois qu'ils vont gagner.
Espèce de
grâce à un but de Peter Svoboda, tiens.
Non, arrête donc. Jonathan Drouin, tu pourrais dire, là, d'éteindre
l'incendie. Michel Daline.
Oui. Va te reposer avec ta botte Radek Bank.
Ma Radek Bank.